Eh ben, bon retour à tout le monde après ce petit morceau cultissime. Et pour ceux qui ne connaissaient pas encore, j'espère que ça vous a plu. Christophe, t'es de retour avec nous sur le plateau.
De retour à la Clermont Geek Convention en compagnie d'une des plus jolies voix du doublage français, une comédienne exceptionnelle, aux talents multiples, différentes facettes, télé, théâtre, cinéma, doublage, on va en parler, et jeux vidéo, pour oublier Zelda. Je suis en compagnie de Adeline Chetaille. Bonjour Adeline.
Bonjour, bonjour.
Alors comment ça se passe cette Clermont Geek Convention ?
Bah super, c'est assez intense, il y a beaucoup de monde. Et puis bah comme d'habitude, plein de dédicaces, plein de sourires, de bonheur, parce que en fait ma voix évoque quelque chose à chacun. Et donc les personnes qui viennent me voir, au départ, viennent me voir peut-être pour un personnage, et puis se rendent compte que j'en ai fait d'autres, et ils se disent « Oh là là, t'as marqué un moment de ma vie, ou carrément t'as marqué mon enfance, t'as bercé mon enfance », souvent on me dit ça. Et c'est incroyable en fait de faire ressentir des émotions aux gens comme ça en direct.
Alors c'est le plaisir de rencontrer ces fans, pour eux aussi, parfois, de mettre un visage sur ces voix qui ont bercé leur enfance.
Ou carrément un nom.
Exactement, c'est la magie du doublage. Alors, comme je disais, une carrière remplie qui a démarré très jeune. Alors, ta première expérience était au théâtre à 6 ans, c'est ça ?
Exactement, j'ai commencé par une petite pièce de théâtre.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée sur cette pièce à un si jeune âge, finalement ?
Mon papa était conteur, donc il racontait des histoires dans les écoles, les bibliothèques pour les enfants, et puis il a eu envie de faire un spectacle au théâtre. Moi, depuis que je sais parler, j'aime faire du spectacle. Donc, quand j'étais toute petite, je savais à peine marcher. Je montais dans les parcs, je montais sur les socles et je faisais déjà des spectacles. Et donc, il a eu envie de faire ça avec moi. Et je suis montée sur les planches et j'ai adoré ça. Et j'ai demandé à continuer. C'était vraiment une volonté de ma part de jouer la comédie. En fait, j'ai toujours aimé faire des personnages sans forcément mettre un mot dessus. Mais voilà, mes jeux d'enfant, c'était ça. C'était me prendre pour un personnage et entrer à fond dans ce personnage, à tel point que je demandais à ma mère de m'appeler Marguerite ou un autre nom pendant toute une journée, parfois pire, pendant des semaines. Pauvres parents.
Alors, tu as fait du doublage très jeune également.
Oui.
Ta première expérience, c'était, il me semble, Bambi, mm-hmm. où tu jouais la petite sœur de Pampan. Alors, Pampan, pour le public, c'est le fameux petit lapin. Comment tu es arrivée à faire du doublage ?
Complètement par hasard. En fait, suite à ma volonté de continuer à m'amuser à faire des personnages différents, j'ai été inscrite en casting, en agence pour faire des castings, pour tourner. Et puis, quelqu'un qui faisait du doublage a dit à mes parents ils cherchent des voix d'enfants dans le doublage et Adeline, elle pourrait bien aimer. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et j'ai fait aussi Forrest Gump avec la petite fille qui crie « Cours, Forrest, cours !»
Voilà, vous vous rappelez de cette scène culte dans le film, c'était Adeline.
Voilà, c'était moi et ça a lancé toute ma carrière. Puisqu'au bout d'un moment, en fait, je me suis sentie un peu étriquée dans les tournages. Mmh. Puisque malheureusement, on n'a qu'un physique, alors que la voix permet de faire plein de rôles différents et c'est ça qui m'amusait. Donc j'ai arrêté de tourner et j'ai continué toujours la voix, voilà, jusqu'à aujourd'hui.
Alors, tu as fait du doublage pour des actrices, en Cher et en Os, des vraies actrices américaines, plusieurs, mais beaucoup d'animations, de Japanimation. Quelle est ta préférence ? Plutôt doubler, te mettre dans la peau d'une artiste physique ou d'un personnage imaginaire animé, finalement ?
En fait, tout va dépendre du rôle qu'on va me présenter. Et ce que je vais préférer, c'est vraiment avoir quelque chose à défendre, à jouer en tant que comédienne. Après, s'il y avait un média qui me plaisait le plus, je pense que ce serait le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo a une particularité, c'est que on entre en immersion, le joueur est en immersion totale, puisqu'il est acteur quelque part de l'histoire, et puis on a maintenant des scénarios de plus en plus poussés, de plus en plus fins, j'allais dire, et intelligents, et ça me plaît énormément, mais j'ai pas vraiment de préférence, puisque tout va dépendre de ce qu'on propose comme personnage à interpréter.
D'accord. J'ai une question plus particulièrement sur le doublage d'acteurs physiques réels. Quels sont tes secrets, parce que tous les comédiens ont leurs petits secrets, pour te mettre dans la peau du personnage et retranscrire ses émotions le plus possible, le jeu du comédien ? C'est quoi ton truc, tes trucs?
J'essaye simplement, c'est, bon, ça paraît vraiment simple comme ça, dit comme ça, de comprendre la situation, comprendre mon personnage et me mettre complètement à sa place. C'est de l'empathie pure. C'est se dire, même si ce personnage fait quelque chose de mauvais, comprendre ses motivations, pourquoi il le fait, quels sont ses sentiments ou ses ressentiments parfois. Et c'est comme ça que je vais aller vers un jeu d'acteur le plus naturel possible, puisque c'est en ayant l'émotion qu'on change même parfois sa voix.
D'accord. Alors c'est très intéressant ce que tu nous dis, parce que ton secret, finalement, c'est de t'identifier au personnage et de te mettre dans la peau du personnage.
Comprendre les enjeux, comprendre voilà. les émotions.
Alors, c'est assez intéressant, puisque pas tous, vous avez tous vos secrets, comme je disais, mais beaucoup de comédiens, en fait, se fient plutôt à la VO, essayent de retranscrire le jeu du comédien, et pas forcément se mettre vraiment dans la peau du personnage. Donc, c'est vrai que tu as une approche qui est très intéressante, carrément l'identification au personnage pour toucher au plus de la sincérité.
Alors, évidemment que je me réfère à la VO, bien sûr, puisque mon métier, c'est de faire pareil, quelque part, et de respecter une œuvre, de respecter aussi les choix artistiques, le travail d'un réalisateur, le travail d'un acteur. Donc, bien sûr que je vais entrer dans la peau du personnage, et puis, plus que ça, entrer dans la façon de jouer de l'acteur qui a interprété le personnage. Mais si je veux y arriver, il faut que je m'identifie, c'est essentiel.
Donc, tu as ce petit truc en plus. Donc,
c'est
peut-être... pour ça que le public est si sensible à ton jeu de comédienne et couplé à cette voix assez extraordinaire.
Oui, moi j'ai une question sur la partie purement vocale en fait. Est-ce que tu as des petits rituels de chauffe vocale en fait avant de travailler ?
Pas du tout. Alors j'ai simplement quelque chose que je travaille, c'est si en studio je me retrouve face à une difficulté d'articulation ou voilà un mot qui passe pas bien, je vais rentrer chez moi le soir un peu vexée et je vais travailler je vais mettre ce mot dans plusieurs phrases, le travailler pour le faire de manière fluide et que la prochaine fois que je me retrouve face à cette difficulté, je puisse m'en sortir un peu mieux. Mais sinon non, je fais plus entre guillemets d'exercices ou de chauffe. Bon, c'est pas des exercices de chant hein, ce qu'on fait, donc j'ai pas besoin du même chauffage de cordes vocales. C'est peut-être un tort, mais en tout cas comme je travaille très régulièrement, quasiment tous les jours, j'ai pas vraiment d'astuces à ce niveau-là. Mais c'est pas quelque chose que je recommande à quelqu'un qui serait novice en la matière. Là, oui, il faut faire des exercices et s'entraîner énormément, surtout sur l'articulation.
Alors, les techniques de doublage ont beaucoup évolué. Au niveau des enregistrements, on sait que maintenant, il faut aller toujours plus vite. Chaque personne enregistre, sauf exception, sa partie. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration, sachant que l'alchimie entre les comédiens permet souvent un jeu beaucoup plus fin et beaucoup plus agréable, finalement ?
Alors, ça dépend quel comédien. C'est horrible.
Bonne réponse.
Ça dépend avec qui. Et ça dépend aussi de... Est-ce que c'est des scènes importantes, intéressantes entre deux protagonistes. J'aime bien les deux exercices. J'aime bien être toute seule, parfois. Et puis, j'aime bien aussi être accompagnée. Mais ce que je préfère, c'est avoir du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de temps. Donc parfois, on est obligé d'aller très vite. Et parfois, j'ai un peu peur du résultat. Voilà. Mais j'ai heureusement assez d'expérience pour que le résultat ne soit pas trop gâché par la rapidité d'exécution. J'espère.
Alors, comme on le disait, tu as œuvré dans différents domaines, notamment au cinéma, donc Jusqu'au bout de la nuit, par exemple, Le monde à l'envers. Mais il y a eu aussi des séries de télé qui vont parler à tout le monde, je pense. Il y a eu Les Boeufs Carottes. Alors, Les Boeufs Carottes, c'était avec un grand monsieur qui s'appelait Jean Rochefort.
Tout à fait.
Très grand comédien. Julie Lescaut, vous vous rappelez de Véronique Genest, la femme flic, Julie Lescaut. Et Kolz de Mathieu Kassovitz, par exemple. Est-ce que c'est un exercice que tu as apprécié ? Est-ce que tu aimerais refaire des séries ?
Non, pas vraiment. En fait, j'ai perdu l'habitude quand on est devant un micro, on est statique physiquement, on ne peut pas bouger puisque ça fait du bruit. Voilà, je peux pas non plus tourner la tête, sinon hop, on ne m'entend plus. Et puis on n'a pas de perchman, hein, ni de micro HF. Cela dit, il y a quelques productions avec des micro HF maintenant pour reproduire un petit peu les conditions de tournage, mais on peut quand même pas bouger, on peut pas faire de bruit de vêtements, de bruit de chaussures, ce genre de choses. Donc j'ai perdu l'habitude d'évoluer physiquement devant une caméra. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui normalement ne doit pas se perdre. Donc je pense que si là je devais jouer en live devant une caméra, je ne serais pas forcément très bonne.
Donc finalement, tout dépend des comédiens, mais toi tu n'as pas ce besoin physique d'apparaître et de jouer, d'avoir une proximité avec d'autres comédiens finalement sur du cinéma ou de la télé.
Non, je ne ressens pas le besoin et pour moi ça signifie presque que je ne suis pas vraiment une comédienne à part entière, puisque pour moi la vraie définition de l'acteur et du comédien, c'est qu'il peut tout faire. Normalement un comédien, il peut être sur scène, devant la caméra, faire de la voix, faire plein de choses. Donc moi je me suis vraiment spécialisée. Je me suis mise dans un petit coin confortable et ça ne me dérange absolument pas. Je suis entièrement satisfaite. J'ai pas de frustration. Mais si j'avais un conseil à donner à des gens qui souhaiteraient se lancer, c'est de ne pas se limiter à la voix, justement. En tout cas, dans un premier temps, et d'oser tout faire.
Alors, nous l'avons pas précisé, mais tu as aussi fait des publicités, notamment une petite voix. Tout le monde se rappelle la fameuse. Couleur orange.
Orange. Voilà. J'y arrive plus. Voilà.
C'était Adeline. Rappelez-vous dans la publicité à la fin. Donc voix aux multiples facettes, comme je disais. Puis il y a eu des grands moments, c'est les doublages de Ghibli, les studios Ghibli, studio emblématique de la Japanimation. Là, c'est vraiment le Disney japonais, on peut l'exprimer comme ça. Alors beaucoup de choses. Il y a eu Kiki la petite sorcière.
Oui.
Nausicaa. Arrietty qui a rencontré un très grand succès en France, ça a été vraiment énorme, on en a énormément parlé à l'époque. Parmi tous ces films Ghibli, quel est ton préféré, celui que tu as le plus dans le cœur ?
Nausicaa. Sans hésiter, Nausicaa, bien sûr.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment se passe le travail pour les studios Ghibli ? On sait qu'ils sont assez exigeants par rapport à d'autres studios, comment ça se passe ?
C'est vraiment, vraiment un film cinéma, donc on a beaucoup plus de temps pour enregistrer, en tout cas sur tous ceux que j'ai fait. Nausicaa particulièrement, moi j'ai eu plusieurs jours d'enregistrement pour un rôle. Alors oui, c'est un rôle principal, mais parfois on peut enregistrer ça vraiment, vraiment très vite, sur une ou deux journées maximum. Là, on a pris notre temps et c'était très agréable, et puis on voulait vraiment, on savait que Miyazaki était très attaché à ce rôle, très attaché à ce film, et puis qu'il écouterait la version française. Et puis en dehors de ça, le film est tellement beau et tellement incroyable, tellement poétique, tellement actuel que voilà, c'était un bonheur pour moi de faire ce personnage. Ça a marqué un peu un tournant dans ma vie, dans ma carrière. J'avais une vingtaine d'années, je faisais beaucoup de rôles d'enfant, et Nausicaa, ça a été quand même un des premiers rôles vraiment sérieux, plus adulte, plus mature. Et suite à ce rôle-là, alors bon, ça doit être un hasard total, mais j'ai eu accès à des rôles un peu plus intéressants, un peu plus importants. Et voilà, donc j'ai Nausicaa vraiment dans le cœur. Et puis bon, le scénario et tout.
Voilà,
et
puis c'est les studios Ghibli.
Et c'est les studios Ghibli.
Le plus grand de la Japanimation, enfin pour tous les fans de culture japonaise, Ghibli, c'est, comme je le disais, le Disney japonais, c'est culte, c'est énorme, c'est tout, quoi, en fait. C'est le summum, on va dire, de la qualité.
Et c'est tellement poétique.
Voilà, il y a ce côté également très poétique, très beau, très. C'est magique. Alors, autre personnage culte, tu as repris la voix de Zia dans Les Mystérieuses Cités d'Or pour les saisons 2, 3 et 4. Donc tu as été recruté, tu as réussi rapidement à te mettre dans la peau du personnage. C'est vrai qu'il y avait cette série culte pour des générations, les fans étaient beaucoup en attente, un challenge un petit peu compliqué, donc comment tu as relevé le défi ?
En fait, y a toujours quelque chose de compliqué à toucher à une œuvre qui fait partie de l'enfance des gens. Et je me suis rendu compte que le public attendait de retrouver des sensations qu'il ne pouvait pas retrouver, puisque ça reste dans l'enfance, c'est une Madeleine de Proust. Mon conseil a été de se détacher, en fait, de cette de cette première saison et d'évoluer et de proposer quelque chose de différent pour une nouvelle génération peut-être et de rester ouvert à cette nouvelle interprétation, quelque chose aussi d'un peu plus moderne. Zia, dans la première saison, son rôle, il n'est pas franchement intéressant.
Il est un peu effacé, son rôle.
Voilà, donc d'un point de vue de femme, je ne trouvais pas... Voilà. Et il y a eu cette volonté d'emmener Zia sur quelque chose de... Voilà, de plus fort, elle a des pouvoirs, elle a un peu plus, elle a plus de force de caractère aussi. Et c'était très intéressant de travailler ça avec le réalisateur. Et puis j'ai trouvé que la réalisation, justement, était très très belle, très très belle.
Voilà, donc avons une Zia Girl Power pour cette Girl saison Power, 2, 3, 4. Beaucoup plus affirmée, beaucoup plus intéressante, finalement, au niveau du personnage. Mm-hmm. Alors, je vais citer quelques jeux vidéo, sinon je vais me faire gronder, parce qu'il y a des fans de jeux vidéo, surtout dans la salle. Donc, Zelda, forcément, la princesse Zelda.
Oui.
Il y a eu les FF, donc les Final Fantasy 14 et 15. Mm-hmm. Call of Duty, je parle vraiment des jeux cultes, mais imaginez un petit peu, ça, c'est des blockbusters du jeu vidéo. Donc... quelque chose qui te plaît beaucoup, hein, les jeux vidéo, ce que tu as dit, évoluer dans les jeux vidéo.
Ouais.
Alors finalement, tu préfères le jeu vidéo à l'animé ou ton cœur est bien pour, enfin, bas pour
Comme
les deux.
Comme je te disais, il n'y a pas vraiment de choix, mais par contre, si on veut parler d'un personnage, d'un vrai personnage, encore plus fort selon moi que Zelda, parce que Zelda, c'est... Alors voilà, c'est un monument, hein, c'est quelque chose... Et encore une fois, quelque chose qui touche aussi à l'enfance et... C'est difficile d'amener les gens vers une nouvelle version de Zelda, puisque là aussi, le personnage a été renforcé et n'est plus juste la princesse en détresse, mais aussi une actrice complète de l'histoire. Et puis, il y a The Last of Us. Et ça, pour moi, c'est le rôle de ma vie. Avec le rôle de Ellie, qui est un personnage qui est complètement différent de ce que j'ai pu interpréter auparavant. Des princesses, j'en ai fait pas mal. Il y a Nausicaa, il y a Amalia, et que des princesses en A. Mais Ellie, c'est complètement autre chose. Et là, on part... Je vous invite vraiment à regarder, si vous n'êtes pas joueur ou joueuse, à regarder sur YouTube le film The Last of Us qui a été fait par une chaîne YouTube qui a en fait capturé les moments et des cinématiques et du jeu en lui-même. Le premier dure 3 heures, le deuxième 6 heures. Donc ça se regarde un peu comme une série, on peut faire des pauses et tout. Et c'est un scénario juste dinguissime. Et les personnages, on s'y attache et on vit des choses, des émotions qui n'ont jamais été faites en jeu vidéo. Donc voilà, j'espère que j'ai bien vendu l'aventure. Et voilà, pour moi, c'est... Alors bon, évidemment, il y a plus récemment aussi Arkane avec Jinx, où c'est un rôle aussi très marquant. Mais pour moi, là, Ellie, c'est le rôle phare. Et je ne sais pas si j'aurai un rôle plus fort ou plus important dans ma carrière.
Alors justement, ta carrière, cette superbe carrière, si riche dans tous les domaines, malgré tout ça, est-ce que... Il y a encore des rêves que tu n'as pas assouvis, des choses que tu aimerais faire, qui ne sont pas encore arrivées.
Alors, j'ai toujours eu envie de faire du Harry Potter. Et je n'ai pas été castée sur Hermione, alors que j'aurais vraiment voulu, parce que j'ai toujours adoré cet univers et puis ce rôle. Donc voilà, c'est un petit peu mon regret, mais c'est pas grave. Et je ferais bien j'interpréterais bien, je ferais bien un opus Tomb Raider, par exemple.
Ah, ouais, donc messieurs les éditeurs, si vous êtes à l'écoute.
Petite Lara Croft, ça me plairait pas mal. Mais non, après, en fait, même si je continuais jusqu'à la fin, bon, peut-être qu'au bout d'un moment, je m'ennuierais un peu, mais même si je continuais jusqu'à la fin avec des rôles moins intéressants, j'estime que j'ai déjà tellement de choses incroyables dans mon tableau de chasse que je ne serais pas frustrée, je ne serais pas mécontente. Mais bon, la vie est peut-être encore longue, et puis les rôles qu'on me proposera plus tard seront peut-être aussi formidables, je me le souhaite. J'espère en tout cas, parce que j'ai très envie, encore une fois, d'interpréter des choses très différentes.
Alors, nous allons parler de ton actualité avant de nous quitter. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Je ne peux pas parler, puisque, en fait, dans mon métier...
Tenu au secret professionnel.
Il y a des confidentialités.
Exactement.
Donc, il y a des choses qui sont annoncées, comme la saison 4 de Wakfu, par exemple. Ça, je peux dire.
Voilà, donc notez.
Voilà, la saison 4 de Wakfu qui est en préparation. Pour l'instant, je n'ai aucune date, je n'ai aucune information, bien évidemment. Mais ça va finir par arriver. Il y a, Zelda Breath of the Wild 2 qui devrait arriver aussi. Alors, il n'y a rien d'annoncé pour l'instant, pas pareil, je peux pas communiquer à ce niveau-là. Mais normalement, je devrais reprendre le rôle puisque c'est la même Zelda. Donc, je le souhaite, j'espère, je croise les doigts très très fort. Et j'espère une Zelda encore plus, plus active. Voilà, encore plus, qui prendra part à l'aventure de manière plus présente, j'espère.
Voilà, donc énormément de choses formidables qui arrivent. Donc les fans, vous savez ce qu'il vous reste à faire, restez bien à l'écoute de l'actualité d'Adeline. Toujours pour la retrouver avec plaisir. Donc comme vous avez vu, quelques jeux vidéo, des pistes, la suite de Wakfu, etc. Donc beaucoup de choses. Le temps passe malheureusement très très vite en ta compagnie. C'est dommage. Est-ce qu'on a une petite minute supplémentaire? Oui, formidable. La régie me dit oui. Me dit oui. Donc le plaisir donc te retrouver à la CGC. Donc moi j'avais une question. Si un jour je montais une pièce de théâtre, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du théâtre. Est-ce que tu accepterais de jouer dans cette pièce?
Bah, tout dépendrait du scénario peut-être, si vraiment c'est incroyable et que le rôle proposé est vraiment oufissime, il faudrait vraiment au moins ça pour que j'accepte,
un super rôle,
pas à l'aise du tout.
Un personnage mais super extraverti, l'héroïne de la pièce qui assure, très intéressant socialement, etc. Peut-être que ça te tenterait.
Aucune idée, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serais très à l'aise pour être sur scène.
Ça serait l'occasion aussi de ce rapprochement, mais direct, pour le coup, on n'a rien à voir avec le cinéma, avec le public, avec les fans, c'est quelque chose que tu peux appréhender, qui te plairait, qui te donnerait du plaisir, finalement ?
Je pense, mais vraiment, je ne fais pas ce métier pour ça. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin qu'on me regarde, qu'on m'applaudisse, qu'on m'encense. Évidemment, ça fait plaisir quand je reçois des compliments sur mes prestations, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai provoqué des émotions. Et c'est ça que je demande. Quand je rencontre des gens qui ont joué à Zelda, je leur dis « Est-ce que vous avez pleuré ?» Et je suis contente s'ils ont pleuré. C'est un peu sadique, mais en même temps, c'est ce qui me plaît. Pas de faire pleurer des gens, bien sûr, mais de transmettre.
Bien sûr.
En fait, de susciter quelque chose de suffisamment fort pour qu'il y ait des larmes, c'est quand même assez fou, assez incroyable. Mais je me sens quand même très, très à l'aise derrière un micro. C'est confortable, encore une fois. Et puis, si je me plante, je peux refaire. Sur scène, quand on se plante, c'est compliqué.
Alors, ça sera ma dernière... Ah oui, tu avais une question rapide.
Ouais, ouais. Eh ben, comme tu es très à l'aise derrière le micro et qu'on adore ça, est-ce que tu voudrais bien nous faire une petite dédicace Radio Campus comme ça?
Vous êtes sur Radio Campus. C'était Adeline Chetaille. Merci à tous.
Allez, merci beaucoup.
Alors, ma dernière question. C'est vrai qu'il y a quelques années, alors je parle de ça, c'est un ancien qui parle, il y a plus de 30 ans, les comédiens de doublage étaient dans l'ombre. Finalement, le public ne s'intéressait pas du tout. Puis ça s'est démocratisé début 2000 avec l'arrivée de post-Club d'eau, etc., les séries cultissimes. Et ils sont mis à apprécier le doublage. Alors, il y a deux écoles, il y a des comédiens qui se disent « Enfin, voilà, il y a une personne derrière ses émotions, c'est moi, apprécie beaucoup ça. » Puis d'autres qui sont indifférents, qui préfèrent l'ombre, finalement. Mm-hmm. Toi, tu es plus de l'ombre ou...
Entre les deux.
Entre les deux.
En fait, j'apprécie énormément que ce métier soit mis en valeur aujourd'hui, parce que du coup, je peux en parler. Et j'adore parler de mon métier, je suis passionnée. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être invitée à ce genre d'événement et de pouvoir avoir la parole et d'expliquer ce qu'on fait et que les gens soient surpris, soient intéressés et des questions. Je trouve ça vraiment génial. Après, pour la reconnaissance, c'est pas ce qui m'intéresse le plus.
Merci beaucoup, Adeline.
Merci.
Nous parlions d'Arietti tout à l'heure. Nous allons nous quitter en compagnie d'une superbe voix, Cécile Corbel, une autre belle voix. Donc, le mariage Arietti, donc la chanson Cécile Corbel et Adeline, c'était magique. Donc, Arietti Song, et puis bon salon. À bientôt, Adeline. Merci d'être venue dans cette émission. On se dit à bientôt.
À bientôt sur Radio Campus. Thank you.
On est de retour sur les ondes de Radio Campus 93.3 avec une nouvelle arrivant sur la table. Wassil, salut.
Bonjour.
Comment est-ce que tu vas ?
Super, et toi ?
Bah, ça va très très bien.
Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de mon école de sabre, l'école Tenshin Ryu. Une école
Tenshin Ryu, ça fait super classe quand même.
Ça fait badass, bah, je te l'accorde.
Pour les personnes qui ne parlent peut-être pas encore très bien japonais, Tenshin Ryu, ça veut dire le dragon du Tenshi, c'est le paradis.
Alors, je ne saurais pas te Tenshi, traduire le
c'est
nom.
Ça. Non, j'avais le mot anglais en fait dans ma tête, mais oui, c'est bien ça, c'est le dragon du paradis.
Ok, tu m'apprends un truc en plus sur mon école, super. Alors, cette école remonte à il y a plus de 400 ans, une ère où l'ère Kenei, l'ère Edo Kenei, où se battaient les samouraïs encore avec des armures. Et c'est à partir de là qu'en fait, on a commencé à avoir la transition entre armure vers tenue beaucoup plus légère, où on portait simplement le wakizashi, le katana, là, de manière tous les jours sans avoir de gros combats quotidiens. Mais les duels étaient fréquents. Elle a été fondée par Yaei Tokizawa, un maître qui a été à l'école de Yagyu Munenori. Cette école se nomme Shinkage Ryu Yahei. Et d'ailleurs, dans cette école, dans l'école Tenshin, il y a intégré des techniques de cette école, l'école Shinkage Ryu. Des techniques qui sont assez particulières, car on a aussi la possibilité d'utiliser des armes à deux mains. Des techniques qui ont été très largement médiatisé par Miyamoto Musashi, un célèbre samouraï dont tout le monde connaît sans doute le nom. Alors dans cette école, dans la Tenshin Ryu Yoho, on pratique un art martial complet. Il comprend les armes suivantes: l'art du Kenjutsu, c'est-à-dire l'art du sabre, l'art du Bato Jutsu, l'art de dégainer le sabre, l'art du Sojutsu, l'art de la lance, l'art du Jomon Jigaru Jitsu, l'art de la lance en forme de croix, une sorte de pic avec une garde, elle aussi, affûtée. Le Naginata Jutsu, l'art du glaive, qui peut s'apparenter un peu à la hallebarde qu'on a en Europe ou en Chine. Le Kusaragi Gama Jutsu, l'art de la faucille en chaîne, c'est-à-dire une faucille auquel on a ajouté une chaîne et un poids au bout qu'on va venir lancer pour soit voler le sabre de l'adversaire, soit le taper dans des zones où il y a des points vitaux. Le Tezai Jutsu, l'art de la chaîne, et le Yawara, l'art du grappling à main nue, qui peut s'apparenter en fait à du Jujitsu. Ces techniques-là ont été principalement utilisées dans la défense de châteaux, mais aussi sur le champ de bataille, d'où en fait leur application concrète et leur efficacité qui ont été à nombreuses fois prouvées. Donc actuellement, on la pratique au Japon, il existe très peu de délégations à l'international, c'est une école qui est restée vraiment très centrée. Et pour tous ceux qui souhaiteraient apprendre, Dans mon cas, moi, j'ai rencontré un maître qui a été élève là-bas, dans, au Japon même. Mais il propose une formation en ligne avec des lives quotidiens quasiment, de 30 minutes à 3 heures, où ils apprennent tout en anglais les différentes techniques et les différentes techniques d'apprentissage pour les entraînements et pour entraîner sa condition physique pour pouvoir apprendre tout ça. Et ensuite, on a la possibilité, si bien sûr nos moyens nous le permettent, d'aller au Japon et de passer les certifications qui y sont associées.
Et toi, tu pratiques ça depuis combien de temps ?
Maintenant, ça fait un petit moment, je pratique ça depuis mes 8-9 ans.
Maintenant, t'as quel âge ?
19 ans.
Donc ça fait combien d'années ?
10 ans.
Ouais. Et après, dans la pratique de cet art martial, toi, qu'est-ce qui te parle ? Qu'est-ce qui te fait vibrer plus ?
Alors, c'est vraiment le côté qu'on retrouve, en fait, ce qui se passait à l'époque, des vrais combats. Parce que selon moi, en fait, c'est important de transmettre un peu cet art, parce que du coup, ça nous apporte plein d'avantages dans la vie de tous les jours, que ce soit la maîtrise de soi, prendre le temps de bien réfléchir, mais aussi de se canaliser et de mieux se concentrer, parce qu'il faut avant tout se dire qu'à un certain niveau, on utilise des vraies lames, et ces vraies lames, résumer, un katana, ça coupe extrêmement bien, vraiment comme un rasoir, et un faux mouvement peut vraiment faire de gros dégâts, et donc ça demande une concentration absolue, et du coup, avec le temps, ça nous permet aussi de développer une très grosse concentration dans la vraie vie.
D'accord. Et en plus, là, les auditeurs ne peuvent pas te voir malheureusement, donc je vais prendre le temps de parler de ça. Tu as une tenue complète qui est traditionnelle. On n'est pas sur un kimono en toile avec les couleurs de ton école. Là, c'est vraiment une tenue traditionnelle. Tu peux nous la décrire un peu plus en détail, s'il te plaît ?
Alors, on porte un kimono large, en français, bien sûr. On porte aussi des yukata, des sortes de kimonos.
Des kimonos plus légers.
Voilà, pas tout à fait, mais des kimonos qui se portent sans hakama. Et on associe avec ça un hakama. Et on essaie toujours au maximum de mettre, quand on sort, un kimono blanc avec un kimono noir. Pour, bien sûr, la tradition du seppuku, le harakiri plus communément, qui est une tradition venant de Chine, où les samouraïs s'éventraient pour retrouver leur honneur, car on considérait que l'honneur se retrouvait dans le ventre.
D'accord, ok. Et le hakama, c'est ça que tu disais, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors le hakama, c'est une sorte de robe-pantalon, en fait.
D'accord.
C'est comme un pantalon à pattes d'éléphant, mais qui, quand on resserre les jambes, en fait, devient une robe, une jupe, plutôt, qui, en fait, a l'avantage de cacher les pieds du pratiquant, ce qui en fait évite à l'adversaire de voir les déplacements qu'on va faire à l'avance.
Ok. Est-ce que ce hakama, c'est un peu comme ce qu'on voit sur ceux qui font du...
Du kudo ?
Ouais.
C'est la même chose.
D'accord, ok. Et même quand on regarde des animés style Inuyasha ou même dans Sailor Moon, les personnages qui sont dans des temples, tu sais, ont une sorte de grosse chemise blanche avec ces pantalons très très larges. Souvent de couleur rouge, c'est aussi un hakama, ça ?
Ouais. D'accord. Alors, de mémoire, le hakama rouge a une signification particulière quand il est associé à du blanc, mais je ne saurais pas vous dire laquelle.
Ok. Et donc là, la tenue noire, c'est une signification particulière ou c'est, on va dire, une simple tradition dans le milieu martial ?
C'est une tradition, on va dire. Après, on peut porter différentes couleurs. Mais généralement, c'était parce qu'on mettait les armoiries, comme sur celle-ci, une armoirie en fleurs de cerisier. Qui est apparu à l'ère Edo, du coup. Et voilà.
Ok. Et est-ce que sur la table, les animateurs veulent se manifester un petit peu par rapport à ça ?
Oui, on a plein de questions. Plein de questions.
Bah, vas-y.
J'emprunte un micro. Alors, est-ce que la culture manga ou animé japonais a eu une influence sur les goûts que tu peux avoir pour les arts martiaux ou pas du tout, finalement ?
Alors, mon père était pratiquant d'arts martiaux à l'origine et c'est vraiment lui qui m'a mis dedans depuis tout petit. J'ai d'abord commencé avec le taekwondo avant de me diriger vers ça. Et j'ai eu un intérêt assez petit, en fait, pour le combat de sabre, on va dire. J'avais tendance à souvent prendre des bâtons, etc., et essayer de me battre avec mon frère là-dessus. C'est qui m'a donné cette envie de rejoindre cette pratique-là des arts martiaux.
D'accord, donc c'est plus une transmission culturelle.
Exactement.
Très bien. C'est toujours intéressant de savoir quel peut être le cheminement pour les passionnés d'arts martiaux. Ça peut être traditionnel, comme on l'a dit, une transmission culturelle. Et souvent, ça peut expliquer beaucoup de choses. Donc, merci pour cette réponse.
Une autre question ?
Alors, si tu veux y aller, oui, bien sûr. Hein, si tu as quelque chose d'autre à demander, je t'en prie.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller au Japon ? Et si oui, quelle expérience, si tu y allais, bien sûr, tu as gardé ?
Alors, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'est plutôt les maîtres qui sont venus à moi. J'ai eu cette chance-là, en fait, de les rencontrer à Paris et dans différents stages. Qui nous ont permis, qui m'a permis de mieux comprendre et d'avoir un vrai apport historique de ces techniques-là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, cette tradition-là se perd un peu, parce que maintenant, en fait, on fait certains mouvements, mais on ne nous explique pas spécialement pourquoi on les faisait, alors que quand on les comprend, par exemple, certains mouvements qu'on va faire vers le bas vont être là pour couper les jarrets du cheval et décapiter, par exemple, le cavalier. Mais quand on les voit comme ça, on se dit que c'est juste esthétique, mais il y a un vrai intérêt derrière.
Alors, quelle est selon toi la plus grande qualité qu'il faut avoir pour les arts martiaux, pour pratiquer les arts martiaux ?
C'est la patience, parce que pour maîtriser son sabre, il va falloir vraiment beaucoup de temps.
Ok, top. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais c'est passionnant. Non, après, on va rester toute la nuit avec vous, chers amis. Du coup, avant d'entamer les au revoir avec toute l'équipe de Radio Campus qui est autour de la table, ben, je vous propose une dernière petite musique. Et puis, à tout de suite. Et donc, c'était le générique de Totoro, c'est bien ça ?
Non.
Dibou, le retour en force dans l'attaque des titans. Bon, bah, en tout cas, je remercie tout le monde, tout le monde. Et tout le monde peut aussi me remercier parce que, quand même, on a.
On remercie notre chef d'orchestre qui a orchestré deux mains de maître le plateau de la CGC Radio Campus.
Ouais, on peut l'applaudir.
On remercie les personnes de l'ombre en coulisses, donc Alexane qui a chapeauté le projet et le plateau depuis ce matin. Et à la technique, car l'émission sans technique, ce n'est pas une émission, Mathieu.
Ouais.
Merci Mathieu. C'était top et voilà, la technique, c'est formidable.
Mathieu, soulève son t-shirt, calme-toi Mathieu, s'il te plaît.
Oh mon Dieu, plus 35 degrés.
Ah oui.
Et puis, oui, toute l'équipe de la CGC, parce que sans l'événement, on ne serait pas là aussi pour vous parler de manga, de couleurs, de kimono, de patience, de chroniques sur le cinéma
c'est
fantastique,
cool.
Oui, de jeux ennuyeux.
À la Japanimation. Et donc, on remercie toute l'équipe de la CGC et Mathilde, donc de JL Event.
Tu as placé ta private joke en plus, hein, Vilaine.
Ah oui.
Mais donc, jeux vidéo, effectivement.
Oui. Écoutez, chers
Radio Campusien, les Radio Campeurs, ils sont pas là, ils sont au Mont d'Or.
C'est ça. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve bientôt sur les ondes 93.3 FM.
Avec grand plaisir. Au revoir tout le monde.
Salut tout le monde.
chéri de l'espace.
ISO.
Son domaine, c'est notre galaxie.
ISO.
Sur la Terre, il est comme toi et moi.
ISO.
Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi.
ISO.
Ne crains rien, il nous protégera. Toi et moi,
ISO.
Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi.
ISO.
Ne crains rien, il nous protégera. Ses ennemis ont bien compris que lui vivant, ils seront perdants. Et il attaque et il traque sans répit. Sur son roller sky, il livre bataille à coups de laser. Il défend la terre, seul contre tous. Il est chéri de l'espace,
ISO.
Son domaine, c'est notre galaxie.
ISO.
Sur la Terre, il est comme toi et moi.
ISO.
Dans le ciel, c'est lui qui fait la loi.
ISO.
Ne crains rien, il nous protégera.
No, we don't.